Tout de suite, c'est Delta Sport sur Delta FM.
J'ai déjà vu des inconscients, des sauvages, des hystériques, mais des possédés comme ça.
Écoutez, c'est bon parce qu'on est des gens pour nous prendre pour des andouilles, on accorde notre tête.
Bonjour à tous, bienvenue dans le Delta Sport, on est très très content de vous retrouver. Aujourd'hui on est le 20 janvier 2025 et je suis accompagné de Lola.
Salut.
Ça va bien Lola?
Oui.
Je suis accompagné de Marine aussi.
Salut.
Ça va bien Marine?
Très bien.
Super. Je suis avec aussi Marilou.
Salut.
Ça va bien Marilou?
Ça va, lui bébé a gagné donc.
Eh oui,
content.
Exactement. Mamadou, ça faisait... Ouais c'est pas souvent qu'on te voit en ce moment.
Oh non.
Non mais on en profite.
Rentrée, suis...
Ça va bien?
Ça va.
Le Real a gagné, donc tout va bien.
Ils ont gagné, mais bon.
Ouais, c'est vrai.
Il y a des choses à redire.
Et Clément, on n'est malheureusement pas là parce que oui, une défaite en Coupe de France et un match nul contre Strasbourg, forcément.
Un amateur.
Voilà, exactement. Et je suis là aujourd'hui, on parlera donc de football, de rugby, de sport auto, de volley. Ok. Et y aura un quiz aujourd'hui. Allez, on commence tout de suite avec le football.
Vingtième journée de Liga qui a eu lieu ce week-end, donc on va revenir sur les matchs de ce week-end. On va commencer avec la défaite qui est assez inattendue de l'Atlético de Madrid face à Leganés 1-0.
Hop.
Défaite qui fait mal pour l'Atlético de Madrid, malheureusement ou heureusement pour certains.
Ça va, ils ont pas perdu de genre, ils ont pas pris 4 buts non plus. Hein.
Ouais, mais le problème en fait c'est le classement. On va revenir plus tard, mais le classement est problématique. Victoire de Séville 2-1 face à Gérone. Victoire de Bilbao 2-1 face à Celta de Vigo. On a eu le match nul hier avant-hier du Barça contre Getafe. Crois que Koundé a mis un but très rapidement au début de match, puis après ça a été compliqué.
J'ai pas vu le match. Sur une bonne dynamique en ce moment, ça fait
plaisir
à voir.
Mais c'est dingue, c'est qu'on est sur une bonne dynamique, mais.
Ils n'y arrivent pas.
C'est
plus
des faux pas.
Ouais,
c'est des faux pas.
Je sais pas.
Ouais.
Je sais pas tout ce qui s'est passé.
Hier, donc le Real Madrid il gagne 4-1 face à Las Palmas.
Las Palmas,
très, très
et d'ailleurs,
bon
Las
match,
Palmas qui a très bien commencé le match, qui a marqué le but le plus rapide de la saison.
25 secondes, 29.
Ouais, c'est ça, 25. Donc, ils se sont fait surprendre d'entrée le Real et je pense que ça a dû leur mettre un petit coup de morale.
Très bon match d'Mbappé, il a très bien joué.
Ah oui.
C'est un bon match global. Il y a eu 3 buts, je crois, annulés par la VAR. 2 ou 3 buts.
Punaise.
Bah oui,
je crois
parce que
c'était des
positions d'hors-jeu.
Des hors-jeux, ouais.
Ouais, c'est beaucoup du hors-jeu.
Donc pour le classement, le Real Madrid est premier avec 44 points, ex aequo avec. Non, 46 points, pardon. Ex aequo. Non, pas ex aequo du coup, mais.
Non,
l'Atlético de Madrid est deuxième avec 44 points. Et cette fois-ci, ils ont plus de matchs de retard. Donc là, ça va être compliqué.
Oui, ça y est, c'est fini. Oui, il y a plus de matchs de retard.
Ouais. Le Barça qui est troisième avec 39 points. Donc il y a quand même 6 points d'écart avec le premier. Et qui, du coup, ex aequo avec l'Atlético Bilbao qui est quatrième.
Donc ça va être.
Donc ça va être ça va être compliqué.
Ça va être un championnat serré. Mais...
Donc... Après, j'ai ma petite opinion là-dessus. Hein. Pour moi, il ne mérite pas d'être troisième. Je suis désolée.
Le Barça
Vu la saison qu'ils font, il ne mérite pas d'être troisième. Je suis désolée.
Oui, je suis d'accord aussi.
Bah ouais. Mais
pour,
l'Atlético
pour
aussi.
Gagner
l'Atlético
la
mérite. Oui. L'Atlético mérite là.
Ah
là,
oui, c'est sûr.
D'être deuxième.
Pour moi, il mérite. Non, pour moi, l'Atlético mérite d'être premier.
Mais le Real.
Après c'est les résultats, c'est les résultats.
Bien sûr,
il faut gagner.
Exactement.
Mais
il
faut regarder aussi le jeu.
Bien sûr.
Et après, on regarde le nombre de points.
Ah bah oui, c'est exactement ça.
Dans le bas du classement, on a Valence qui est dernier avec 13 points seulement. 2 victoires en 19 matchs, c'est très peu. Le 19e est le Real Valladolid et le 18e, l'Espagnol Barcelone avec 19 points. Voilà.
Ok.
Copa del Rey maintenant.
Eh oui, c'est vrai, il y avait la
Copa del Rey cette semaine. On a eu beaucoup de matchs.
Sur l'équipe.
C'était les 8e de finale. Donc on va commencer avec la victoire de Valence 2-0 face à Ourense.
Ils perdent en IA, mais.
Après, Ourense, c'est une équipe de, je crois, 3ème division.
Ouais, voilà, c'est un peu de la Coupe de France. En fait, la Copa del Rey, c'est un peu comme.
Ouais,
la
c'est
coupe
la même chose,
France.
Exactement. Ouais. C'est la même chose.
D'accord.
On a Getafe qui gagne 1-0 contre Pontevedra. On a le Barça qui gagne 5-1 face au Real Betis. Il y a eu beaucoup de buts. Je crois que quelqu'un a mis à doubler, je sais plus.
Très beau match du Barça. Superbe.
Comme d'habitude. Hein.
Non, franchement, c'était. Non, mais après, le Real Betis, c'est quand même une équipe de division 1 quand même.
Ouais, ils sont 11e.
Donc, ouais, c'est.
4-0 de l'Atlético de Madrid contre Elche. Et on va finir avec le Real qui gagne 5-2 face au Celta de Vigo. Juste après les Clasico, du coup, ça fait un peu de bien.
Bah oui, du coup, ça fait. Ouais. Après la défaite 5-2.
Non, pas la défaite cuisante.
Ah voilà, pardon, ok, excuse-moi. Ok, bah, merci beaucoup Mamadou. Je fais juste un point de Ligue 1 parce qu'il y a eu des choses hein, quand même ce week-end, donc comme Clément n'est pas là. Montpellier, dernier du championnat qui a quand même battu Monaco, 2-1 à domicile. Donc franchement, un super match de la part des Montpellierains. Le PSG a eu peur mais a gagné quand même et reste invincible sur toute la saison, 2-1 contre Lens.
Avec de la chance.
Match nul entre Lyon et Toulouse, 0 partout. Et aussi, y a eu beaucoup de matchs nuls quand même. Y en a eu quand même 4. Donc Saint-Étienne-Nantes qui font 1 partout. Même score pour Reims-Le Havre. Et Marseille qui se fait surprendre par Strasbourg. On t'embrasse Clément si tu écoutes l'émission. Classement du coup, c'est avec le PSG à 9 points d'avance sur Marseille. Donc c'est quand même assez serré. Lille qui est 3ème. Lille quand même qui est... Il faut savoir que Lille, ils ont une série d'invincibilité de 19 matchs, toutes compétitions confondues. Donc, c'est la plus grosse série d'invincibilité actuellement, donc c'est génial. Avec 32 points, donc... alors attendez, je ne sais pas compter. Si, 5 points sur Marseille. Et Monaco qui est 4ème, donc Monaco qui ne va pas trop mal, qui ne va pas très très bien en ce moment. Coupe de France, je ne sais pas si vous avez suivi un peu la Coupe de France.
Non.
Eh bien la Coupe de France, ça nous a réservé beaucoup de surprises, notamment avec Reims qui sort Monaco au tir au but, donc c'était un super match. Aussi au tir au but, Marseille qui est éliminé de la Coupe de France contre Lille.
C'est prématurément.
Oh là là, mais...
Super match du gardien. Ça, c'est la grosse surprise des 8e de finale, des 16e de finale. C'est le FC Bourgoin-Jallieu, club de National 3, qui a éliminé Lyon, l'OL, au tir au but. Donc c'était très très serré. Il faut savoir qu'ils ont ouvert le score, puis après Lyon a égalisé.
Ouais.
Lyon a repris l'avantage et Bourgoin-Jallieu a égalisé.
Mais je serais même pas placé sur la carte.
C'est à côté de Lyon. C'était un peu un derby entre guillemets. Une équipe de Ligue 2 qui a battu Rennes, c'est 3, qui a battu Rennes 1-0. Le PSG a eu très peur. Ouais. Vraiment,
face au petit poussé.
Non, c'est pour ça que je dis de la chance. Il marque toujours.
C'était, mais n'importe quoi. Alors, j'ai regardé le match. C'était de la gambardella. Vraiment, je me suis fait chier pendant 80 minutes. Luis Enrique, t'as l'impression. Les joueurs, ils n'avaient pas envie de jouer. Déjà, c'était beaucoup de. On passe au gardien, on passe au défenseur, machin et tout. Oh, on n'attaque pas.
L'équipe de France actuellement.
C'était vraiment très drôle. Et là, dès que Luis Enrique il a fait jouer les vrais joueurs, entre guillemets, donc t'avais Gonzalo Ramos, t'avais Lee Kangin, là, direct, paf, on a gagné. Et ils ont gagné 4-2. Quand même, il faut savoir que l'Espagne, ils avaient quand même marqué le but du 1-0 à la 3ème minute. Donc voilà.
Bah après, je trouve ça un peu dommage de ne pas se mettre directement dans le jeu, et juste parce que c'est une plus petite équipe, ne pas trop vouloir jouer contre elle, c'est...
Non, mais je suis complètement d'accord avec toi. Et aussi, donc, de la grosse surprise du Stade Briochin, club de National 2, qui a battu Annecy au tir au but, club de Ligue 2. Voilà. Donc, pour les gros matchs, entre guillemets, de ces huitièmes de finale, on aura un 3-Brest, on aura Lille contre... On ne sait pas encore, parce qu'il y a encore un match qui reste à jouer... qui aura lieu mercredi entre Haguenau et Dunkerque, qui est un match qui avait été reporté. Le Mans accueillera le PSG. Il y aura un duel entre un club de Ligue 1 entre Strasbourg et Angers. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Si le Stade Briochin affrontera Nice à domicile, ça va être un très très beau match. Bourgoin-Jallieu, donc, qui a battu l'OL, affrontera Reims, tombeur de Monaco. Et il y aura un match entre Toulouse et Guingamp. Voilà, pour les actus un petit peu foot, on passe tout de suite au rugby.
Du coup, ce week-end, c'était encore la Champions Cup et c'était les derniers matchs de poule. Après, il y aura une longue pause jusqu'à avril avant les huitièmes de finale. Alors, pour commencer, le Stade français a malheureusement perdu contre les Bulls. 48-7, ça fait mal.
C'est pas une petite.
Et donc, ils sont éliminés pour les huitièmes. Ils ne font pas partie des huitièmes.
Ok, quand même.
C'est dur.
C'est l'un des seuls clubs français qui est éliminé.
Ouais, voilà, c'est ça.
Mais c'est quand même pas le plus petit quoi, qui est éliminé. C'est et en plus, ils ont perdu de beaucoup.
Après, ça dépend avec qui ils étaient en poule aussi.
Bah, c'est ça. Hein.
Oui.
C'est ça.
Oui, c'est sûr.
Donc ce qui n'est pas le cas pour Clermont, qui gagne contre Bristol 33 à 26, donc t'en parlais tout à l'heure.
Ouais, mais c'est pas sur ce match, c'est contre les... Clermont, ils ont joué samedi ou dimanche.
Si, c'était contre eux.
Bah, c'est, j'ai vu contre les Bears.
Bah, c'était ça.
C'est la même équipe.
Oui, c'est juste
en fait, les noms. Ouais.
Oui, c'est ça. Bah, en fait.
Ah, ok. Voilà. C'est pour ça que je me disais. C'est
non, mais c'est ça.
Bah, c'était assez drôle le match parce que j'ai regardé un peu, surtout la deuxième mi-temps. Et en fait, ils ont eu une pénalité, Clermont. Mais vraiment en face des poteaux. Mais vraiment.
C'est très drôle.
Et ils l'ont raté. C'est dingue. Et du coup, quelques temps après, l'autre équipe, donc Bears ou Bristol, ils ont eu eux aussi une pénalité ou une reconversion.
Ouais, c'est ça, mais c'était...
Et dans un angle, mais quand je vous dis qu'il était vraiment très dur. Et ils l'ont eu. Et du coup, vraiment, c'était hyper drôle, personnellement. Et je trouve que Clermont, certes, ils ont gagné. Tant mieux pour eux, parce que voilà. Mais c'était aussi quand même un peu de chance, parce qu'ils ont dépassé le temps pour leur essai. Ils étaient vraiment en train de pousser.
Ouais, voilà ça.
Mais bon.
Ça me rappelle, je sais plus si c'était dans le tournoi de destination ou dans la Coupe du Monde, mais il y avait France contre Angleterre ou Écosse, enfin bref, je sais plus, et c'était la fin. Et enfin, c'était une pénalité vraiment pareil à côté, enfin en face des poteaux, et c'était soit on perdait, soit ils gagnaient.
Ça soit une tournée de destination.
Sauf qu'ils ont pas vu le temps, et il a tiré genre à 2 secondes, et en fait, il a pris le poteau. C'était hilarant. Ouais. Je sais pas si vous vous en rappelez.
Ouais, mais là vraiment, ils l'ont raté, mais.
Ouais, bah,
c'était le poteau ou c'était.
Ah non, non, là c'est en dehors, c'est même pas le poteau, là c'est.
Ah oui, vraiment.
Et quand je vous dis qu'ils étaient en face, c'est genre. Je vais peut-être pas dire ça, mais je pense même on peut l'avoir.
Il va dire, c'est parce qu'il y avait du vent.
Voilà. Après, je pense qu'honnêtement, les températures devaient être sacrément faibles. Donc,
ah oui, mais ça c'était sûr. Mais ça c'était sur tous les terrains.
Pour jouer, ça devait être horrible. Ouais, mais bon.
Du coup, Clermont fera partie des huitièmes. Après, La Rochelle perd encore contre Trévis, 35 à 25, mais fera tout de même partie des huitièmes.
C'était l'objectif. En fait, c'était vraiment l'objectif.
Oui, c'est pour ça qu'ils n'ont pas mis le.
On a quand même des gros matchs. C'est quand même des gros matchs, des grosses équipes.
Ils tombent que sur des grosses équipes.
En plus, même le top 14, en ce moment, on affronte que des grosses équipes, tu vois, Toulouse, machin et tout. Donc, tu vois, c'est pour ça qu'il faut faire. Au bout d'un moment, le but du jeu, c'était de vraiment gagner le match. C'était vraiment l'objectif principal. Mais le but, il fallait au moins marquer des points histoire de se qualifier. Et c'est ce qu'ils ont fait.
Après, l'UBB, qui est pour l'instant premier au niveau des points, a gagné contre les Sharks. Beau match, 66 à 12.
Mais surtout, très beau match de Damien Penaud.
Mais oui, il est
6 et c'est énorme.
Avec Jalibert, la petite...
Après, il n'est pas seul. Hein.
Mais moi, j'ai hâte de le voir pendant le tournoi de destination. S'il fait ça pendant le tournoi de destination, on plie le game, les gars.
Après ce match, ils ont quand même marqué 10 essais.
C'est énorme.
C'était vraiment beau.
Faut savoir que l'UBB a marqué plus de buts que toutes les équipes africaines sur le. Plus de buts, pardon, plus d'essais.
Ça, faut pas le dire, les pauvres.
Voilà. Non, mais c'était la stat un peu 23-22. Donc, voilà.
Ensuite, Toulouse a mis aussi une branlée à Leicester.
Ah bah oui.
80 à 12.
Et ils nous ont battus.
C'est énorme.
Ils ont marqué 12 essais. Ils nous ont battus.
Ouais, bah là, franchement, on avait un.
Oui, bah là.
On avait un Rameau sans feu, un Antoine Dupont qui fait jongleur carrément. C'est...
Mais oui, non, mais c'était. C'était trop beau.
Moi, j'ai vu Ntamak faire sa petite interview avec son.
Ah, je l'ai pas
avec
vu.
Ntamak qui va.
Avec son fils.
Avec son
il
fils.
Revient pour le tournoi de destination.
Il y a le groupe en plus qui est sorti, ça y est. Le groupe de
l'équipe. Non, oui, le groupe. Ouais.
Bah, du coup, ouais.
Il y a des remplaçants.
Ouais.
Je sais plus de qui.
Mais on a hâte de le voir. Franchement, j'ai hâte de voir ce groupe de l'équipe de France. Ouais. Ce petit groupe de l'équipe de France.
Il y a des petits nouveaux.
Parce qu'il y a des petits nouveaux, des petits U20 qu'on connaissait pas trop. Ouais. Que moi, j'avais regardé quand la Coupe du Monde des U20 était sur l'équipe. Et que franchement, j'avais kiffé regarder. Vraiment,
on verra.
C'est des super joueurs.
Après, il faut allier les anciens et les nouveaux. Quoi.
Bien sûr.
C'est ça qui va être compliqué.
C'est exactement ça.
Ensuite, il y a Castres qui gagne contre Sarah.
Saracens.
Ok. 24 à 32 et ils feront aussi partie des 8e.
Castres, c'est quand même la grosse surprise, j'ai envie de te dire vraiment.
Mais on les entend pas trop et en fait ils sont là. Hein.
Bah, vraiment, ils sont là.
C'est comme Toulon.
Toulon. Toulon.
Là, il perd contre Sol. Sal. 33 à 7.
Ah, c'était dur, c'était très dur.
Mais ils font partie quand même des huitièmes.
En fait, voilà, le but, c'est de gagner des matchs, mais après, vraiment, sur les derniers, tu fais bon.
Ouais. Voilà. T'as la flemme, t'as envie que les autres
C'est vraiment un peu ça.
Se reposent.
Ouais,
c'est normal.
C'est ça.
C'est parce que ce qu'on fait l'UBB et Toulouse, mais bon.
Ouais, non, l'UBB, voilà, c'est autre chose.
Ils aiment bien jouer, quoi.
Voilà, c'est ça.
du coup, je vous dis les matchs prévus en huitième de finale. Donc, on a l'UBB contre l'Ulster.
Ouais, ça va être sympa, ça.
Ça va être sympa. Ouais. La Rochelle contre Munster.
Ouais.
C'est une grosse équipe, quand même.
C'est une grosse équipe.
Mais là, il n'y a que des grosses équipes. Ouais. 1, 2, 3, des grosses équipes.
C'est une grosse... Oui, voilà, ça, de toute façon...
Déjà qu'il y a des grosses équipes, mais en 8e,
honnêtement,
tu vas avoir que des bons matchs.
Franchement, j'ai hâte de voir les matchs des Français. Ouais. Vraiment, des clubs français, ça va être sympa.
Je pense que quand même, c'est à la portée de...
Ah oui.
Que ce soit l'UBB ou la Rochelle, c'est
à
la
portée. Et là, on n'a aucun match français contre français.
Non, c'est vrai.
C'est beau quand même, parce que sur 6...
Par contre, on pourrait avoir des demi-finales françaises, des finales françaises, et...
À mon avis, on en aura.
Why not, vraiment.
On verra.
Bah oui.
Ensuite, on a Toulouse contre Salles, Toulon contre Saracens. Après, il y a un très beau match de prévu, c'est Harlequins contre Leinster.
Ah, ça va être un match. Ça va être un match très beau. Vraiment, ouais. Ça va pas être une pluie d'essais, mais ça va vraiment être un match être dans magnifique. La tactique.
Ouais.
Mais après, c'est souvent quand t'as une pluie d'essais, ça veut dire qu'il y a quand même un énorme écart de points. Bon.
Encore, tu vois, Toulouse, Leinster, franchement, c'est quand même une belle équipe.
Ah, c'est une très grosse, c'est une belle équipe.
Et
Toulouse.
Ouais,
c'est Toulouse, ça. Voilà.
Quand ils sont lancés, tu peux pas les arrêter.
Et vous pensez que qui va gagner entre Harlequins et Leinster?
Le Leinster.
Ouais,
pour moi, je pense que je mettrais une petite pièce sur Leinster.
Ouais.
Quand même. Parce que les mecs qui sont là, ça fait quand même 3 ans. Qu'ils arrivent en finale
et qu'ils
perdent. Donc,
Faudrait peut-être une quatrième fois.
Je pense qu'ils ont la rage de vaincre. Tu vois.
Une quatrième fois, ce serait pas...
C'est ça.
Ensuite, on a Glasgow contre Leicester, Castres contre Travis et pour finir, Northampton contre Clermont.
Ouais, ça va être des belles affiches. Vraiment,
ouais, franchement, ouais.
Merci France 2 de diffuser le tournoi gratuitement.
Ouais,
c'est cool, merci. Je fais un petit point aussi parce que du coup tu parles de la Champions Cup, mais il y a aussi la Challenge Cup avec aussi 6 clubs français. Donc franchement, si on gagne pas une coupe de rugby cette année, et il y aura un duel 100% français là, par contre en 8e de finale entre Perpignan et le Racing 92. Donc ça promet en vrai.
Bah ouais.
Ça promet. Le Lyon Rugby Club qui sont aussi qualifiés, ils joueront contre les Hollywood Bread Sharks.
C'est qui comme équipe?
C'est une équipe anglaise.
Ok.
Vraiment, c'est une équipe anglaise. L'Aviron Bayonnais affrontera les Bulls. Ça va être sympa c'est quand même un match entre le 6e et le 1er.
Ça va être beau.
Ça va être un beau match. Il y a aussi la section paloise qui est qualifiée, qui jouera contre les Bats Rugby. Il y a beaucoup d'équipes anglaises vraiment dans ce jeu-là. Et Montpellier qui affrontera les Gloucester.
Ok, voilà. ça va être beau aussi. Hein.
Bah il y a moyen qu'on ait des belles affiches.
J'espère qu'on va quand même gagner quoi.
Bah écoute, ça serait bien.
Ouais.
Donc affaire à suivre.
Je fais un petit point pour le calendrier des tournois destination.
Ça va reprendre là, ça y est. Enfin, ça va pas reprendre.
C'est fin du mois là.
Eh oui.
Premier match France Pays de Galles.
Petit match pour se rentrer match, dedans. Voilà. Attention quand même à pas sous-estimer l'effectif gallois.
Je pense que ça va le faire.
C'est à notre portée.
Bien sûr. Mais il y a aussi, il va y avoir tous les tournois en même temps. Là. Il va y avoir aussi
U20. C'est bien réparti, je pense. Ouais. Entre les grosses, je veux pas dire petites parce que c'est pas des petites équipes, mais plus petites que d'autres.
Si t'es dans le tournoi d'initiation, c'est pas que t'es une petite équipe. Oui. Voilà.
Donc ça, c'est le vendredi 31 janvier.
Ouais, déjà.
Ensuite, on a Angleterre-France. Beau match.
Le crunch. Ça sera à Twickenham.
Le 8 février.
La dernière fois qu'on a été à Twickenham, on s'en souviendra toujours.
C'était
53-13. On avait gagné.
Oui, mais en plus, à chaque fois, ils nous gagnent. Quand ils sont chez eux...
Attends, la dernière fois qu'on a été à Twickenham, on a quand même les
amis. Oui, mais c'était la dernière fois, on sait pas. Hein.
Bah écoute, j'ai hâte de voir le match contre le Pays de Galles avant.
Va être un beau match. Hein.
Ah oui.
Mais de toute façon, tous les matchs
c'est un match contre l'Italie ou vraiment.
Je suis désolée,
Écosse, Italie.
Écosse,
Italie, bof.
Celui contre l'Angleterre, tu l'attends.
Tu l'attends.
Comme le match contre l'Irlande, quoi.
Non, mais l'Irlande, c'est le plus attendu.
Bah oui. Ah,
forcément.
En plus, on les affronte au Stade de France, je crois bien.
Non.
C'est pas au Stade de France, non, ça va être à la Viva Stadium.
C'est oui.
Ok.
Ça part en CSA, je pense.
Oh là là.
Ça joue pas en notre.
Ah ouais, bah là, merde. Oui, vraiment, là, c'est. On et espère on... que les supporters feront le déplacement.
On est assez fort.
Toujours. 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 Ils sont toujours là. Hein.
Nous, on veut des bonnes Marseillaises, tu vois, des trucs comme ça, ça va être.
Mais oui. C'était magnifique alors.
Bah attends, le premier match avait c'est à domicile ou à l'extérieur ?
Domicile.
Ah bah voilà, tu vas avoir une belle Marseillaise.
Mais je sais pas si beaucoup de monde va aller voir Pays de Galles, France.
C'est le tournoi de
destination. Oui, ah, oui.
Ouais, enfin, je tiens quand même à dire que les deux matchs qui sont joués à domicile, c'est pas pour dénigrer, mais c'est les plus petites équipes quoi.
Bah écoute, ça va nous faire des bonnes affiches. L'année dernière, on avait quand même. Il y avait quand même une bonne affiche en France, mais là, c'est les deux pires équipes sur le papier. Après, voilà, on peut avoir
des
belles
surprises.
Voilà.
Enfin, non, j'espère que ce ne sera pas de surprise, justement, sinon...
Non, on parle des autres équipes, voilà, c'est ça. Ok. Eh bien, merci beaucoup, Marie-Lou. On passe tout de suite au biathlon.
Du coup, aujourd'hui, on poursuit le débrief de la Coupe du Monde de biathlon. Donc on va parler de la cinquième étape qui se déroulait du 15 au 19 janvier, donc jusqu'à hier à Ruhfolding en Allemagne. tout comme la quatrième étape du coup, qui se déroulait aussi en Allemagne mais à Oberhof. Mais du coup, bon, je vais juste parler de la cinquième parce que sinon ça va être très long. Du coup, on commence avec les individuels, donc avec les hommes. Il y a eu une victoire du Norvégien, je ne sais pas si je vais bien le prononcer, mais Vebjørn Sørum, suivi par le Français Emilien Claude, donc le frère de Fabien Claude. Et la troisième place revient à la Lettonie avec le biathlète Andrejs Rastorgujevs. Bon, je ne sais pas si je le dis bien, mais voilà.
On va dire que si, t'inquiète.
Ensuite, du côté des femmes, on a une victoire française qui nous est offerte par Loujean Monod.
Ah oui.
Avec en deuxième position l'Allemande Franziska Preuß. Bon, c'est souvent les mêmes sur le podium.
Oui,
Mêmes qu'on retrouve. Suivi par la Suisse Amy Bazerga. On retrouve une autre Française dans le top 5 puisque Océane Michelon se place en quatrième position. Maintenant, on passe au relais avec une très belle victoire de l'équipe française masculine qui a réussi un bel exploit parce qu'ils nous ont, ils ont eu besoin que de 6 balles de pioche au tir et donc d'aucun tour de pénalité. Donc personne n'a fait mieux dans l'équipe masculine. Et du coup, l'équipe relègue la Suède qui était championne du monde en titre en seconde position, suivie par l'Allemagne à la troisième place.
Pas de Norvège.
Et les Norvégiens obtiennent seulement la quatrième place avec 3 tours de pénalité. Donc, ils n'étaient pas en forme sur l'épreuve. Ensuite, pour ce qui est du relais des femmes, la première place revient à l'Allemagne qui a fait encore mieux que l'équipe masculine puisqu'elle a utilisé que 4 balles de pioche. Donc c'était les relais étaient impressionnants.
Ça ne jouait pas grand-chose.
Ensuite, elle est suivie par la Norvège. Puis par la France à la troisième place. Donc il faut quand même noter que c'est quand même un bel exploit pour la France parce que Loujean Monod était absente puisqu'elle se préparait pour. Enfin, elle s'économisait pour la mass start qui suivait.
D'accord.
Et il y avait Paula Beauté et Océane Michelon qui vivaient leur premier relais en Coupe du Monde. Donc les résultats, ils sont quand même assez beaux pour l'équipe de France. Et enfin, on termine avec les mass start. Donc du côté des hommes, le vainqueur est l'Italien Tommaso Giacomel. Je ne sais pas si j'ai bien dit. Suivi par deux Norvégiens, donc Sturla Legweid et Johannes Bø. Donc en parlant de Johannes Bø, on a appris une nouvelle qui est plutôt surprenante, je trouve, puisqu'il a annoncé qu'il prendrait sa retraite en fin de saison, donc la grande surprise générale. Et il a annoncé qu'il devait continuer une année de plus, mais que la participation aux Jeux Olympiques, du coup, qui aura lieu en 2026 en Italie, exige encore plus, y compris pour ceux qui l'entourent, donc
ça
pour sa famille.
Vraiment. Après, c'est un super biathlète. Hein.
Mais ça demande.
Coup, il a 5 titres olympiques et 20 titres de champion du monde, donc c'est quand même énorme.
Il a peut-être envie de se reposer.
Par rapport à sa famille.
Ça demande beaucoup de préparation. Hein. Un tournoi olympique.
Bah oui, c'est ça. C'est...
Ça demande beaucoup d'efforts.
L'affaire d'une vie.
Ouais, enfin après il en a déjà plein.
Là, il en a déjà plein.
Il peut peut-être aussi laisser la place à d'autres.
Il était en larmes.
Hyper émouvant. C'était vraiment hyper émouvant. En même temps, d'un côté, on est content parce qu'on se dit bon, les Français ils ont gratté des places. Mais c'était vraiment.
Après, il y a toujours son frère. Hein. Ils ont le même âge.
Ouais, mais il a. Autant je trouve l'année dernière, il était hyper bien classé, mais là son frère, on l'entend. C'est je crois que j'ai fait aucun podium où il y avait son frère.
C'est compliqué là pour lui, ouais. C'est
alors que frère, l'année dernière, il était toujours sur le podium.
Il chope
tous
des
les
mauvaises
deux,
hein. Plages. Il des
après,
trucs,
peut-être
des...
qu'il était déjà au courant pour son frère, que ça l'émeut au
podium. Non, mais je pense pas que.
C'est pas une excuse, on va dire, entre guillemets.
En vrai, ça m'étonne, hein, parce que vraiment. On
après, on verra l'année prochaine quand il sera plus là.
Ouais. Et du coup. Pour ce qui est des Français, on retrouve Quentin Fillon-Maillet en 6e position et Émilien Jacquelin pardon, à la 8e place. Et pour finir avec la mastarde des femmes, on a une victoire de la Suédoise Elvira Öberg, suivie par l'Allemande Franziska Preuß, puis par la Française Jeanne Richard. Et on retrouve aussi Océane Michelon à la 8e place et Loujean Monod à la 9e place seulement.
Ouais, yeah,
yeah. Un peu étonnant, mais voilà.
Ok, merci beaucoup Lola. Waouh, j'ai bugué. Allez, on passe tout de suite au volley. Et il y en a eu des choses, il y en a eu des belles surprises en Marmara Spike League lors de cette 17e journée. Et on a très très mal commencé cette, cette chronique avec la défaite 3-0 de Poitiers contre Nice. Ça fait très très mal, une année 2025. Un peu catastrophique, entre guillemets.
Il y a plus une défaite, quoi.
C'est deux défaites en deux matchs en championnat. Bon, il y a quand même une qualification en Coupe de France pour les quarts de finale. Donc, Cannes a gagné 3-2 contre Narbonne. Là aussi, un match très serré. La surprise, c'est Tours qui a gagné contre Toulouse, 3-0. Montpellier a perdu 3-0 contre Paris. Donc, il y a eu beaucoup de 3-0 cette semaine. Saint-Nazaire retrouve le chemin un peu de la victoire en battant 7-3-1. Et là, c'est la grosse surprise du week-end, Tourcoing, qui n'y arrive pas, qui a perdu 3-0 contre Chaumont. Donc le classement, il a beaucoup changé, avec Montpellier, du coup, qui a pris la place du leader. De toute façon, les trois équipes, ils ont le même nombre de points. Ils ont 33 points. C'est Chaumont, Montpellier et Tourcoing. Tourcoing qui a pris la troisième place.
Et du coup, comment ils font pour
les partager,
Ça va être, c'est souvent au nombre de sets gagnés.
Ok.
Genre si par exemple tu fais des 3-0, c'est bien, mais si tu perds par exemple un match 3-0, bah c'est mieux, c'est moins bien que si tu perds un match 3-2, tu vois. Ça fait que t'as des 7 cumulés. Et puis moi, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, j'étais au match Poitiers-Nice, qui a été un match assez terrible, on va dire entre guillemets. Donc les scores 22-25 dans le premier set. Donc là on s'est dit bon.
Ça va.
Mise en chauffe, machin.
C'était pas catastrophique.
C'était pas catastrophique, exactement. Donc franchement, c'était cool. Ensuite, le deuxième set, ça s'est fini sur un 18-25. Ils ont bugué un peu.
Ça commence à descendre.
Mais c'est pas.
Et le troisième set, on s'est dit, ils vont le faire. Et ils ont perdu 25-23.
Oh non.
C'est
pour ça que c'est aussi décevant. Quoi.
C'est très très décevant, surtout quand tu vois le match, quand tu te dis.
Après, c'est beau à voir.
Alors, il y avait une très bonne ambiance, comme toujours, et c'est vraiment superbe ambiance. Vraiment, du public poitevin et même du public niçois qui était présent quand même. Il y avait pas mal de public présent. Alors, il faut savoir que le meilleur marqueur de points, c'est un ancien poitevin. C'est Alexandros Raptis. On l'avait interviewé il y a longtemps. Il a marqué 12 points, donc c'est un petit match, mais c'est déjà super.
Ouais.
Et donc ça fait un peu les boules de se dire que quand même ça. Un ancien Poitevin vient sur Poitiers et
nous met la misère, quoi.
Voilà, exactement. Et vous savez, en fin de match, ce que j'aime, c'est aller interviewer les joueurs, et notamment j'ai interviewé Thibaut Thoral. Donc j'ai posé les mêmes questions un peu à tout le monde en lui demandant donc son ressenti du match, et ensuite un début d'année 2025 très compliqué, comme j'ai dit tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il va falloir changer pour la suite, et on écoute sa réponse.
C'était meilleur que nous ce soir. On a fait un match très moyen. On a essayé de se rebeller un peu dans le dernier set, mais ça passe pas loin. Mais clairement, ils ont été meilleurs que nous ce soir. Il va falloir intégrer bien les nouveaux aussi, parce que notre équipe elle a bien changé depuis le début de l'année. Ça, c'est pas facile non plus. Après, c'est pas une excuse. Faut qu'on travaille l'entraînement, faut qu'on donne tout ce qu'on a à donner sur le terrain. Je pense qu'on peut donner encore un petit peu plus. Et va falloir se battre jusqu'au bout. Voilà. Maintenant, on est milieu de classement. Je pense qu'on est à notre place. Enfin, c'est le niveau de jeu qu'on produit en ce moment. C'est notre place.
Et voilà, donc Poitiers actuellement qui est 6e à égalité de points avec Nice, donc son adversaire du soir. Donc vraiment, c'était un match un peu pour se libérer de la 6e place, de choper des places, mais
on l'a pas fait.
Ouais. Ça a été très compliqué. J'ai aussi interviewé Maxime Roita, donc ça c'est vraiment le joueur que j'interviewe très très souvent. Et aujourd'hui, il faut savoir qu'il était libéraux, donc c'est pas souvent qu'il est placé libéraux. Donc il y avait deux libéraux, il y avait le libéraux principal, Franco Massimo, et lui, je lui ai posé les deux mêmes questions. Et après, comme du coup il a pas joué du tout de la rencontre, eh bien qu'est-ce qu'il faut lui souhaiter pour 2025 entre guillemets? On écoute ça.
Mon ressenti, c'est que après le départ de nos deux plus gros joueurs de l'équipe, Le Pointu et Erwin, c'est très compliqué en fait. Et aussi, il y a notre réceptacle attaque qui est parti, Tim Peter, qui a créé un vide dans l'équipe. Et c'est compliqué. C'est compliqué pour nous, oui. On va jouer deux fois contre Tourcoing puisque c'est durant la même semaine. Du coup, mardi et vendredi. Ce qu'il va falloir changer. Je sais pas, franchement, on s'entraîne bien pourtant, mais il va nous falloir du temps en fait pour qu'on se réapprenne à jouer ensemble, puisque l'organisation de l'équipe a été complètement cassée. Du coup, c'est assez compliqué, ouais, ce deuxième partie de saison. De jouer. Après,
la concurrence.
J'attends. Oui, il y a la concurrence. Après, on verra.
Donc voilà, il n'avait pas du tout joué de la rencontre et vraiment, donc il faut savoir du coup, comme il l'a dit, ils vont jouer Tourcoing deux fois, oui, parce qu'il y a le match de Coupe de France, parce qu'ils ont chopé Tourcoing, donc un peu décevant, ils les affronteront pas à domicile à l'extérieur, et le match de championnat qui aura lieu le vendredi suivant, donc mardi et vendredi, qui aura eux aussi là lieu à Tourcoing, donc deux matchs à Tourcoing dans la même semaine.
Ça va être dur.
Ouais. Ça va être très très dur.
C'est pas la plus
Après, on peut avoir des surprises, hein.
On peut avoir des surprises, exactement, voilà, c'est ça.
On espère que
on va avoir des surprises, voilà Marine, c'est ça que j'aime. Du coup, voilà, les deux joueurs s'expliquent vraiment en disant qu'ils sont très très déçus et qu'avec le bouleversement de changement, trois joueurs qui sont partis, les petits nouveaux qui sont arrivés.
Il faut le temps d'adaptation,
c'est ça.
Comme dans tous les sports.
C'est vraiment ça. Donc après, du coup, j'ai été interviewé le coach Daniel Lewis et je lui ai posé exactement les deux mêmes questions et on écoute sa réponse.
Yeah, c'était à Toulouse, c'était un moment dans le troisième, ça change la nuit là. C'est moi, je pense, l'équipe joue bien quand même. Mais maintenant, il manque juste un peu de rapport entre les bons joueurs, le bon rapport entre le. Peut-être il y a deux rapports qui manquent maintenant. Tactique, pas beaucoup, mais quand même l'intensité de jeu qui manque maintenant. Il manque un peu d'intensité de jeu.
Voilà. Alors, il faut savoir qu'il est canadien. Il est génial, vraiment.
J'adore son accent.
Moi aussi, j'adore.
Il est vraiment super. Et vous savez, car c'était donc un match très important pour Poitiers, mais aussi pour l'entraîneur de Nice, qui s'appelle Brice Donna, voilà, qui était l'ancien coach de Poitiers.
De Poitiers.
Pendant 11 années,
donc
super match de son équipe.
Il y a la pression un peu.
Je pense, ouais. Et j'ai eu la chance de l'interviewer, donc je lui ai posé deux questions. Donc, le ressenti du match côté niçois, forcément. Mm-hmm. Et aussi, qu'est-ce que ça fait de revenir à Alonson Body après quand même avoir été passé 11 ans sur le banc du coach. Et aussi, donc, qu'est-ce qu'on pourrait lui souhaiter pour 2025. On écoute sa réponse.
Le match parfait dans le sens où on a été très très appliqué tactiquement, on a très bien servi dans les bonnes zones, on a été bien sûr quand on sert bien, on a été très bon en bloc défense, on les a énormément gênés, freinés, et puis le fameux résultat 3-0, 3 points à l'extérieur, notamment à Poitiers, un concurrent direct pour les playoffs, donc forcément beaucoup de satisfaction. Ça fait toujours plaisir de revoir les amis, les supporters, les bénévoles, tous les partenaires, tous les gens qui m'ont accompagné pendant 11 années, et puis et voilà, forcément, ça fait toujours très très plaisir.
Donc voilà, en gros, ça lui fait plaisir de revenir, machin et tout. Donc, il en profitait pour être avec les supporters, prendre des photos, des vidéos, machin et tout. Donc, franchement, c'était un super match. Donc, prochain match pour Poitiers, ce sera la semaine prochaine. Et ils affronteront Paris. Donc, Paris qui est quand même sur une très bonne dynamique. Paris qui est actuellement 8e du championnat. Allez, on passe tout de suite au quiz avec Marine.
Le quiz.
Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait de quiz, dis donc.
Eh oui,
premier quiz de 2005.
Je sais que vous l'attendiez avec impatience,
oui.
Notamment mon quiz. Donc, vous savez, j'ai fait comme d'habitude, j'ai divisé ça en trois étapes, donc facile, moyen, difficile, et j'ai vraiment essayé de varier les sports.
Ouais.
Donc, il y a vraiment beaucoup de sports. On va commencer tout de suite. Donc, Facile. Quel est le dernier vainqueur du Vendée Globe?
Charlie Dalin.
Ok. C'est Marie-Lou qui a dit en...
Ouais, record, temps record, c'est génial.
Ouais.
Le
ouais.
podium est dans le temps record.
C'est beau.
C'est vraiment beau.
Ah oui.
Et je sais pas si vous avez vu, mais il avait une fissure dans son bateau.
Oui.
Ah, il aurait pu abandonner, mais il l'a pas fait.
Waouh. Ah ouais, ça c'est fort. Hein, c'est très très fort.
Voilà.
Waouh. Quel homme.
Ok. De combien est la longueur du tour lorsqu'on rate un tir au biathlon? Le tour de pénalité.
Aucune idée.
Waouh.
Ah ouais?
Pas du tout.
50
mètres. Moi je sais pas.
50 mètres.
Vous voulez que je vous donne des propositions?
Allez.
Honnêtement, je pense plus.
100 mètres, 150 mètres et 200 mètres.
200.
150, moi je pense.
100. Attendez, on fait dans l'ordre s'il vous plaît. Lola?
150.
Okay.
Moi je dis 100.
100?
Ouais. 200.
150.
C'est les filles qui ont raison. Okay. C'est 150 mètres supplémentaires. Ok, donc question, là c'est vraiment facile et rapide. Par quel pays a été inventé le foot?
Bah, Angleterre.
Ah, j'ai fait en plus. Non.
C'est pas l'Angleterre?
Bah attends, moi j'attends les réponses.
Bah, moi je dis Angleterre.
Toi tu dis quoi? Lola?
Angleterre.
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 Yannis, Angleterre.
Bah oui. Mamadou, il réfléchit.
En fait, j'hésite entre l'Angleterre et je crois l'Écosse, un truc comme ça.
Ok.
Ok, c'est quoi ta réponse finale?
Allez, l'Angleterre.
Moi je dis l'Angleterre aussi.
Bah oui.
Bah oui, c'est l'Angleterre.
C'est évident.
Bien sûr.
Pourquoi chercher l'Écosse?
Pourquoi l'Écosse? Ouais, voilà.
Voilà, c'est quand même.
L'Angleterre a inventé beaucoup de choses.
Ah ouais, mais la France aussi.
La France aussi. Bien.
La France aussi.
Exactement.
Qu'on oublie souvent d'ailleurs et qu'on attribue à d'autres.
Qu'on oublie.
C'est vrai.
Donc après, question encore facile. Donc, quel est le sport le plus pratiqué en Inde?
Bah, le cricket.
Oui.
Ah ouais, le cricket, pardon.
C'est la même question que l'année dernière.
Oh,
ouais, mais t'as vu, tu t'en souviens même pas, c'est dingue.
Ouais.
C'est le cricket.
Bah, pas les deux premières.
Ouais, c'est vrai.
Voilà.
Ouais. Voilà.
Parce que c'est la preuve, vous saviez même pas les réponses. Voilà. Hein,
C'est vrai.
Voilà. Donc, bah, on va voir si en moyen, c'est les mêmes questions, honnêtement. Voilà. Donc, qui est le nouvel entraîneur de l'équipe de France féminine?
De quoi?
De foot. De
l'équipe de France. Oui, de foot.
Oh putain.
Je sais plus son prénom.
Oh merde.
Wendy Renard, il est parti du coup?
Non, c'était Hervé Renard, mais il est plus là.
Non, c'est plus lui.
Oh merde, j'ai oublié son nom.
Si vous voulez un petit détail, il est entraîneur depuis août 2024.
Bah oui, je sais bien, c'est tout nouveau.
Non, j'ai pas de proposition.
J'ai oublié son nom. Je sais plus s'il s'appelle Stéphane, son nom.
Non.
Ah bah yes.
Bah dis.
Non, je sais plus. La vérité, je sais plus.
Tu sais vraiment, vous savez pas, ok.
J'ai oublié.
Ok. Donc c'est Laurent Bonadé. Bonadé, je sais pas.
Laurent Bonadé.
Ah ok, oui, bah ok. Bah je l'avais pas du tout, mais.
Ok. Deuxième question. Quel est le pilote du MotoGP qui possède le plus de titres?
Carlos...
Francesco Bagnaia.
Bagnaia.
C'est ce que j'allais dire aussi.
Vous avez une question, enfin une réponse chacune parce que...
Okay. Mais non, mais je crois qu'on l'avait dit aussi l'année dernière.
Ah non, ah, je te jure que c'était pas... J'ai pas posé cette question.
Moi, je dis comme Yanis, Francesco Bagnaia.
Ok.
Moi aussi.
Pareil. Hein.
Pareil.
Et bah, vous savez quoi? Ça m'étonne vachement que vous dites ça et...
Carlos Sainz, du coup?
Bah non, il est
Carlos
en rallye.
Carlos Sainz, il est en rallye, chef.
Moi, je pensais que vous alliez dire Valentino Rossi.
Ah ouais.
Parce que pour moi, ça aurait été la réponse la plus évidente. Mais du coup, non, c'est pas lui. Et pour le coup, je connaissais même pas. C'est Giacomo Agostini.
Mais t'es sûr qu'on l'avait pas déjà
fait?
Parce que... Non,
enfin, je crois pas.
Okay.
Parce que je crois qu'on avait déjà dit ça.
Je suis pas sûr. N'était pas tournée comme ça, je pense.
Enfin, je tiens à dire que pour ma part, si vous avez déjà eu les questions l'année dernière, que vous en souveniez même pas.
Voilà, allez.
On a fait un quiz depuis le début.
Ok. Quels sont les trois types de réception qui existent en volée?
Bah, il y a la passe.
Non, réception, les types de réception. Donc il y a forcément
La manchette.
Non, il y a écrit le mot, il y a réception et ensuite il y a le type de réception.
Bah, il y a réception, réceptionneur, attaquant.
Non, quel type, quels sont les trois types de réception?
La basse, la haute, tout ça, non?
Voilà, c'est ça.
La basse, la moyenne, la haute.
Non.
Basse, haute, très basse.
La vérité, je savais même pas ça.
Basse.
Il y a basse et haute du coup?
Oui, non mais de toute façon je le compte à... parce que oui, non, mais deux parce qu'il a eu. Mais la dernière c'est la plus dure.
C'est la surélevée? Non.
Non.
Courbée?
Non.
Je sais pas.
Arrière?
C'est pas au niveau du
orienté.
Filet?
Non.
Je sais même pas.
Non, je pense que vous ne trouverez pas.
Bah vas-y. Bah,
c'est pas compliqué comme mot, mais c'est réception en extension.
Ah.
Ah ok.
Ah putain, c'est vrai que quand tu... Ok. Non, voilà. C'est bon, je
donc
vois.
Sinon après il avait
très haut, c'est
pas en fait les gars, c'est la passe, hein. Vraiment c'est
oui.
Si tu veux un truc c'est passe.
Ouais, mais j'ai précisé que dans les termes il y avait réception plus un mot.
Ouais, bah, je sais pas.
Okay. Dernière question de la moyenne. Quel est le français le plus titré à la pétanque? J'ai des propositions.
Ça, c'est la question moyenne.
En fait, je crois que je vois.
Je vois son visage, mais okay,
je sais, je le vois tous les week-ends. Là.
Et j'ai bien dit, j'ai bien dit français. Hein. Ouais, donc, il y a Antoine Albault, Dylan Rocher, Philippe Quintet, Jean Feltin ou David Doher.
Philippe Quintet.
Ouais, c'est ce que j'allais dire aussi, Philippe Quintet.
Philippe Quintet.
Oh, le deuxième.
Antoine Albault.
Antoine Albault.
Il a une tête de Philippe.
Le machin Rocher, là.
Le Dylan Rocher.
Dylan Rocher.
Ok, bah c'est les filles qui ont raison. C'est Philippe Quintet.
Ça se voit qu'on regarde la pétanque, en fait.
Ah, vraiment, les gars, vous êtes sur l'équipe tous les week-ends, vous êtes sur l'équipe en regardant. Ah, ok, d'accord.
Il a 17 titres.
Moi, je trouve ça super intéressant.
Ah ouais.
Mais oui,
pas. Alors, moi, les gars, je connais pas. Enfin, je connais la règle de la pétanque.
On regarde une fois par an, dose.
Il a.
Ah, mais si, papa, on regarde tous les week-ends.
Il a 17 titres de champion du Et donc Philippe Quintet est le français qui détient le plus grand nombre de types de champions du monde, tous sports confondus.
En plus, il est trop drôle.
Et derrière, il dit derrière, il bah, y a Antoine Albault.
D'accord.
Okay.
Oui, c'est, un genre de, c'est un genre de pétanque.
D'accord.
Donc là, on passe au difficile. Quel est le record du monde du lancer de javelot? Et je donne un point bonus pour celui qui a le nom de champion.
121 mètres.
Et tu veux le record paralympique? Moi, je sais parce que je l'ai vu.
Non, non, il y a record olympique et il y a record du monde. C'est deux records différents. Putain. Pour vous donner une réponse...
J'ai vu le record du monde paralympique.
Le record olympique est plus bas que le record du monde, du coup.
Bah non, moi, je dirais...
Non, ça pourrait être
comme égal. 400 mètres.
Oh, pff, 400
non. mètres
Non,
c'est
ça va être un truc genre 60... Ça va être un truc genre 80, 92 mètres.
Mais ça va pas,
moi, vraiment.
Mais t'es malade, 400 mètres.
Mais
ça va pas, la dette.
En fait, le truc, je le vois tellement... Ça va tellement vite que j'ai l'impression que ça...
Mais non, mais t'es malade, 400 mètres.
Moi, je dis 100...
Attends, quand t'es sur la Wii, tu fais 400 mètres, t'es refait. Hein.
Je vous donne à genre 2 mètres près.
Ok, bah moi, je dirais 4.
Moi, je dis 102.
102
94.
Ouais. 114. 123.
Non, c'est, bah, c'est dommage, Lola, t'es la plus proche, donc je vais t'attribuer le point, mais c'était 98,48 mètres. Donc je l'aurais accordé, genre,
ah
si
ouais,
tu m'as dit.
Ah ouais, c'est kiff-kiff avec Yanis, quand même.
Ah, c'est vrai. Mais vous êtes malade, 100 mètres, mais c'est vite que ça fait, 100 mètres.
Bah, 80...
Non, mais 400 mètres.
C'est énorme.
Et, du coup, c'était...
Bah, 98 100 et 100 mètres, y a pas une grande différence.
Ouais, c'est vrai, mais bon,
non, y a
quand
pas
même,
une
c'est énorme.
Et ouais, mais c'est le record du monde de
j'ai vraiment
Ran.
On a la boulette de 2025.
C'est Ran Selezny.
C'est quoi
voilà.
Sa nationalité?
Ok.
Ou là, je serais...
Il est russe?
Non.
Non,
il
n'est
pas
non,
russe. Il était... Je l'ai vu.
Je
l'ai vu, mais je ne sais plus. Mais par contre, du coup, le record olympique, il est de 92,97 mètres.
Ah, j'avais le record... j'avais le record...
Voilà.
Ok.
Ok, bon, question pour un peu les footeux.
Allez.
Quel est le nombre de buts que Cristiano Ronaldo a marqué avec le Real et en combien de matchs?
450.
Le Real, bah voilà.
450. Moi, et en combien de matchs?
En... Oh putain,
je l'accepte 4... pas. C'est
480 tout. Matchs, un truc du genre.
Non.
500?
Non, bah, moins.
Ah oh, purée.
Ah, il a mis moins de matchs que de buts, du coup?
Oui.
Ok, bah c'est 402 alors.
Non.
C'est pas 402?
Non.
C'est plus ou moins?
C'est plus.
38?
Ouais.
438 matchs.
Parce que j'avais des chiffres dans ma tête, mais...
Ok, bah...
Voilà. Bah, tu vois, je pensais pas qu'il l'aurait comme ça, quand même. Même si... Ok. Avant-dernière question. Quel est le footballeur américain le plus grand de toute l'histoire? Il y a des propositions. Ne vous inquiétez pas.
Ah, mais c'est quoi ces questions?
Et, j'ai dit difficile.
Ah oui,
vous m'avez dit, ouais, on a déjà eu ces questions. Là, venez pas me dire que vous avez déjà eu ces questions.
Vas-y, dis les propositions.
Donc, il y a Matt Turner, Zach Steffen, Mark McKenzie, Marlon Fossé ou Richard... Richard Slight. Slight.
Richard
Slight.
Mark McKenzie.
Moi aussi.
McKenzie.
T'as le choix.
Le premier.
Matt Turner.
Je sais pas.
T'as Zach Steffen après.
Ouais, non, mais.
C'est Zach Steffen.
Steffen?
Ouais.
Tu dis Steffen? Ok. Maman, tu dis quoi?
Richard Slight.
Slight, ok. Et toi,
Mackenzie.
Mackenzie, ouais. Et bah, c'est Mamadou qui a.
Ok.
Ah bah, bravo.
Donc, il mesurait 2,13 mètres.
Oh.
Oui. Et il a joué pour les Auckland Raiders de l'AFL. voilà. Et il est considéré comme le joueur le plus grand professionnellement. Voilà.
Bien sûr, il y a des amateurs qui sont beaucoup plus grands que lui.
Ouais. Après, voilà. Dernière question pour Marie-Lou.
Non, arrête de dire ça, à chaque fois, la pression.
Non, mais,
chaque fois,
non, mais c'est
la,
pour...
Marie-Lou,
ouais. En vrai, tu peux l'avoir. Si non, non, vous pouvez l'avoir.
Tu connais plus que moi.
Quel joueur de rugby encore en activité est le plus capé du 15 de France?
Ah ouais.
Attends, scapé?
Capé.
C'est-à-dire quoi?
Le plus titulaire.
Ouais.
Ramos.
Dupont.
Non. Dupont.
Quel joueur de rugby
encore
Dupont. En activité et le plus capé du 15 de France? Réfléchissez bien, vous aurez qu'une proposition.
Okay. Encore en activité?
Oui.
Attends.
Non, mais ça veut dire qu'il joue, en gros, il n'a jamais arrêté.
En gros, c'est le plus vieux.
Pas forcément.
Bah non, pas forcément. Gaël
Ficou. Pas forcément. Gaël Ficou. Qu'est-ce que
tu... Gaël Ficou.
Il pourrait exemple.
Aldrit,
ok.
Non, je pense
pas. Ah, je sais pas.
Gaël Ficou, il était
très bien. Je sais pas du tout. La vérité,
ce que vous me proposez, c'est votre dernière réponse.
Ouais,
attends. Aldrit. Moi, je pense que
dernière
c'est.
Dernière réponse.
Gaël Ficou.
Ok.
Il est.
Oh, putain, c'est dur. La vérité, c'est dur.
C'est dur, hein.
Oh mon dieu, c'est dur.
Ouais. Non, mais moi, je sais pas.
C'est pas du con, c'est sûr, c'est pas lui.
Non, il est trop jeune encore.
Trop jeune.
Non, en vrai, non.
Non, attends, je change d'avis.
Moi, je dis Aldrit.
Ou alors, c'est vraiment.
Mais ça se trouve, c'est un jeune, c'est encore en activité.
Non,
moi, je dis Penaud.
Bah, moi, je dis.
C'est sûr, c'est pas lui, mais c'est pas grave.
Non, ça, en vrai.
C'est qu'il y a le bébé.
Non, parce que parfois, il y est pas.
Ouais, c'est vrai. Bien, moi, je okay.
Vas-y.
Bah, c'était Gaël Ficou.
Ouais, bien vu.
Mais c'est évident.
Non, c'est pas évident, Marie.
Ah, si.
C'est pas évident.
Bah,
je te jure.
75 sélections.
Ouais, mais si tu regardes les.
En vrai,
si tu regardes les scores, je pense que c'est pas très loin des autres.
Ouais, je sais pas.
Ah, moi, je pense que c'est.
Tu peux voir les sélections de Aldrit. Pour moi, il est dans les 50.
Aldrit doit être pas mal.
Ouais, mais 50 face à 71, c'est quand même énorme. Combien de sélections? Ah, Aldrit.
C'est vrai que. Non, mais en vrai, de vrai, ça doit être.
51.
Ah ouais, 51. Tu vois, c'est.
Ça... Bah, c'est quand même.
C'est quand même
beaucoup,
pas mal,
hein.
Oui.
Mais en fait, on dit qu'il est vieux, Gaël Ficou, mais il est pas si vieux que ça, hein. Il a 28 ans.
C'est juste qu'il fait partie des plus vieux.
Et du coup, il est devenu le joueur français le plus capé dans l'histoire du tournoi des 6 nations.
Ah, avec 6 nations.
40 apparitions.
D'accord.
Bah ouais, mais à chaque fois, ouais.
Et le meilleur.
C'était contre. Contre la rencontre, une rencontre entre Italie et la France.
D'accord. Ouais, le 13 partout.
Non, mais je crois qu'il l'avait dit.
Le match le plus dégueulasse.
Il l'avait dit, je crois.
Ok.
Quand il
voilà, donc l'Italie peut quand même servir à quelque chose.
Bien
pour.
Bien sûr, voilà. la preuve, visiblement.
Voilà. Bon, bah, c'est fini. Okay. J'espère que ça n'a pas été trop.
Bah, merci beaucoup.
Bon, après, les dernières questions, elles étaient dures quand même.
Ouais, c'est vrai que c'était dur.
Je pense qu'on peut dire que Marie-Lou a quand même.
Oui, Marie-Lou a gagné
aujourd'hui.
C'est gentil.
Voilà.
Malgré mon 400 mètres.
C'est vrai que celui-là, on le retient.
Non, mais désolée, j'ai vraiment l'impression que ça va vite.
Non, mais oui.
Et je m'en rends pas compte, en vrai.
Enfin, après...
À la télé, tu t'en rends pas compte. Hein.
Après, essaye d'en faire un et
tu... Oui, ouais, voilà, c'est ça. Voilà.
Oui, mais c'est...
D'ailleurs,
c'est
je voulais vous autres. Dire, il n'y a plus de Français à l'Open d'Australie. Donc, notre seul représentant, c'était mon fils, qui a abandonné contre Shelton.
Ah, il a abandonné.
Il a abandonné.
Il avait gagné, non?
Il a abandonné dans le 4ème set après une douleur.
Ah ouais, parce qu'il jouait ce matin. On en
alors, il a,
pas
alors il a perdu le premier. Oui. Là, il s'est fait éliminer. Il a perdu le premier set 7-6. Il a gagné le deuxième set 7-6. Il a perdu le troisième set 7-6. Et après, un jeu à zéro, il a abandonné.
Non, c'est trop dommage.
Ça fait chier.
Plus de Français.
Mais par contre, sa femme
a gagné aussi.
Donc bravo à elle. C'était une bonne journée pour le coup qui avait gagné, que lui avait gagné contre Fritz et elle avait gagné.
C'est ça. Et bien voilà. Et bien on vous laisse. On vous dit à la semaine prochaine. D'ici là, passez une bonne semaine. Salut.
C'était Delta Sport, l'actu sportive sur Delta FM.
J'ai vu des inconscients, des sauvages, des hystériques, mais des possédés comme jamais.
Mais bon, parce qu'on est des yeux pour nous prendre pour des andouilles, on accorde notre tête. Ah, bah.